www.libradio.org. www.libradio.org. www.libradio.org.
Qu'en est-il de la résistance? Quelle résistance et comment la résistance dont vous êtes par le biais de vos écrits et de vos engagements?
J'ai un site internet, j'ai une page Facebook, j'ai un blog, je fais ce que l'actualité m'inspire. Je diffuse, je suis présente, j'aide aussi beaucoup par la compétence technique que j'ai acquise. Je donne pas mal de coups de main sur des pages Facebook, sur des sites. Je crois que ce qui nous sauvera, c'est la diffusion de la connaissance et de l'intelligence. Mmh. Donc, sur mon site, j'ai un lien sur un site hôte qui s'appelle Fragments d'un discours politique, où j'ai réussi à formaliser ma pensée politique. Donc, j'ai essayé de le publier, mais ça n'a pas fonctionné, ce qui ne m'étonne pas plus que ça. Et donc, je publie. Après, je touche quoi? 2, 3. Je ne sais pas combien de personnes sont en train de nous entendre, mais s'il y en a une qui ne connaît pas les idées que l'on est en train de défendre et qui se dit « Ah bah oui, c'est vrai, je pourrais ne pas monter dans le train, j'ai gagné ma journée.
Mmh, » Absolument. On va le rappeler d'ailleurs, les sites internet, donc votre site principal, pourrait-on dire, c'est www.siyung.com, C-Y-J-U-N-G.com. Et puis, je voulais également que l'on évoque, avant que l'on passe au point de cette Coupe du Monde qui nous assiège, eh bien, que l'on illustre un de vos projets qui est pareillement un projet justement porteur de sens, porteur de beauté, et c'est peut-être ça justement la résistance, c'est celui de photocriture. Alors déjà, je vais donner le site internet, c'est www.photocriture.siyung.com, j'appelle photocriture.siyung.com. Tous ces liens seront évidemment mis au libellé de ce podcast-là. Et là, donc, c'est un projet, comment dire multiple, en tout cas interculturel, interartistique entre une photographe et vous-même. La photographe, c'est Sarah Butki, et vous-même, et donc elle photographie des sujets et vous les commentez, c'est ça?
C'est-à-dire que Sarah est une amie et une amie de longtemps, on va dire. Le projet de photocriture est aujourd'hui arrêté, mais il y a combien d'articles à lire, donc il y a de quoi se régaler quand même. Et il s'avère que, donc je suis déficiente visuelle, mais un déficient visuel peut regarder une photo. Après, ce qu'il envoie n'est pas forcément ce que d'autres envoient, mais de toute façon, chacun voit ce qu'il sait ou ce qu'il peut voir. Et Sarah avait à un moment besoin d'un labo photo, donc je lui avais prêté ma salle de bain qui est noire, et elle faisait des développements noir et blanc dans ma salle de bain. Et quand elle ressortait avec ses photos, elle me disait « que t'en penses ?» Et sur du noir et blanc, j'aime les noirs et blancs ou le noir et blanc. C'est-à-dire je vois beaucoup au contraste. Le contraste et la chose iconoclaste font partie des choses qui me permettre de voir. Et Sarah me disait, mais t'es la seule personne qui me parle de mes photos comme ça. Je lui dis, écoute, allons-y, je vais faire des textes sur tes photos. Bon, elle faisait aussi, à ce moment-là, elle a découvert un peu le numérique, donc elle a fait pas mal de couleurs. Et en plus, on fréquente beaucoup ensemble les expositions. Je la laisse se balader, elle m'attrape par le col de temps en temps, puis elle me dit, viens regarder ça. Et on regarde ensemble, donc il y a un véritable partage. Et ces photos, pour moi, le sens qu'elles produisent, puisque ce ne sont pas des photos typiquement figuratives, ces photos produisent un sens. Et comme je suis écrivaine, j'écris le sens qu'elles produisent pour moi. Et donc, je ne raconte pas la photo, hein, vous avez lu Photocriture, je suis très touchée d'ailleurs que ça vous plaise, parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. Donc, je ne raconte pas ce qu'il y a dans la photo, j'en sais rien ce qu'il y a dans la photo. Et photocriture, c'est un petit peu ma vie de tous les jours. C'est-à-dire, je ne sais pas forcément ce que je vois. Je n'arrive pas, mais ça produit toujours du sens.
Oui. Oui,
après, quel sens ça produit? Eh bien, l'écriture permet justement, en se laissant porter par les mots, donc, comme on le disait
voilà,
tout à l'heure, le texte permet de porter quelque chose qui va dans et au-delà de la photo de manière synchronisée.
Oui, parce que là, moi, en lisant, parce qu'il faut le dire, c'est effectivement des photos. Alors, c'est des noirs et blancs, il y a des flous, il y a des choses assez singulières. Et puis, également, les textes, il y a des... des dialogues, il y a des surgissements de personnages comme ça, comme presque un morceau d'écriture automatique, je trouve. Et enfin, je trouve intéressant de mettre ça en lien avec le reste de vos écrits, où justement il y a à un moment donné ce surgissement presque incontrôlable de mots, et puis le fait de se laisser porter par ce récit finalement qui apparaît comme ça d'une manière presque un peu magique.
Ben c'est, au départ, ça a été un exercice, c'est aussi un exercice de style, puisque les textes sont calibrés. Je n'ai pas voulu que ça dépasse une page, puisque tout ce qui se lit sur, en ligne, il faut que ce soit court, parce que l'internaute, il ne lit pas 10 pages. Et c'est vrai que pour moi, la photo est aussi importante que... J'aime bien varier les genres, c'est-à-dire qu'un dialogue, un mode dialogue, ça ne se gère pas du tout de la même façon qu'un récit. J'écris surtout au présent, mais... Le passé, ça peut être aussi intéressant comme temps du verbe. Et c'est vrai que c'est... Il y a des fois où j'ai eu du mal parce que c'était vraiment... Bon, quand j'ai publié les photocritures, j'en publiais un par semaine, ce qui est une grosse production. Et ça oblige à un moment... Dans les premiers, c'est facile. Et puis, il y a un moment où il faut aller au-delà de ce qui est facile pour arriver à produire quelque chose. Sinon, on n'a plus rien. Et c'est là où le travail d'écriture me devient intéressant et permet effectivement d'avoir des réactions telles que celles que vous avez et qui, je répète, me touchent beaucoup.
Très bien, très bien. En tout cas, c'est extrêmement intéressant et nous, on invite toutes les personnes qui écoutent cet entretien à visiter ce site internet-là. Cécile, si vous êtes d'accord, on va passer au deuxième sujet parce qu'en fait, le temps vole et qu'on avait dit qu'à 15h au maximum, on se laisserait. Donc, il serait temps que l'on passe au sujet suivant, qui est celui de la Coupe du Monde. Est-ce que ça vous va ?
Ça me va très bien.
D'accord. Alors, sans transition, on va commencer à parler de ce foot-là. J'aurais envie de vous dire déjà ça. Donc, vous avez lancé sur Facebook un appel au boycott de la Coupe du Monde de football, parce que selon vous, cette Coupe du Monde contient beaucoup plus, quasiment exclusivement, des vices plutôt que des vertus, alors que le foot, lui, bien entendu, pourrait... contenir également des vertus. Là, on parle de la Coupe du Monde et de sa forme. Alors, pour introduire le sujet, comme dans la première partie de cet entretien, je vais lire un morceau d'un de vos communiqués. C'est la fin d'un des communiqués que vous avez commis sur Facebook et puis également sur votre site internet. Et ensuite, je vous donnerai la parole pour que vous le commentiez. Alors, je cite, chacun sait cela et semble s'en accommoder, succombant aux sirènes en crampons de soi-disant enjeux sportifs, acceptant sans exercice de son libre arbitre ce que l'ordre bourgeois hétérosexiste et raciste propose comme divertissement dont lui-même tire un profit coercitif illégitime. Il est pourtant possible de résister à cet abêtissement organisé des personnes, prélude à la narcose des révoltes populaires. Si Jung vous y invite, au nom de la liberté et du refus de toutes les formes de totalitarisme, même celles qui prennent la forme d'un ballon, fût-il rond, fût-il. Éteignez vos télévisions, vos radios, vos médias, Internet, dès qu'il est question de cette Coupe du Monde. Refusez tout échange avec quiconque souhaite en parler. N'achetez aucun produit qui valorise ce pseudo-événement. Et les soirs de match, organisez un bal en bas de chez vous pour inviter vos voisins à danser pour la liberté. Pour faire connaître cette action et la développer, Si Jung vous propose un événement Facebook et un tag, c'est Stop Foot Pro. Et voilà, donc on a tiré ce communiqué du site www.sion.com. Alors voilà, que sait-on, chacun sait cela et semble s'en accommoder. Eh bien, qu'est-ce que l'on sait vraiment de cette Coupe du Monde, chère Cécile Si Jung ?
Bon, je vous invite, j'invite vos écouteurs à... Vos écouteurs, non ?
Auditrice, auditeur.
Auditeur, voilà. Non, mais je suis un peu... Ça me fait bizarre de parler à mon écran, donc ouais, je commence à perdre un peu pied. Vos auditeurs, les arguments, ils sont simples. Ils sont de dire que c'est de la violence quand on voit les comportements des spectateurs. Le dernier match de foot que j'ai regardé à la télé, c'était celui qui s'est déroulé au stade du Wesel.
Oui.
Donc tout le monde a un souvenir. Quand j'ai vu ça, à l'époque, je ne me posais pas de questions. Je regardais comme tout le monde le foot, le rugby, le tennis, machin. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, il y a un problème. Ce n'est pas possible que l'enjeu sportif fut-il une Coupe du Monde, je veux dire, génère la mort de personnes, cette violence, cette haine. Quand on voit les supporters dans les rues de Marseille la dernière fois, je crois que c'était les Russes qui étaient là-bas, c'est pas possible. Je veux dire, quand on entend les propos sexistes, quand on entend les propos homophobes, quand on entend les propos racistes, vous avez en France, vous avez 80% des joueurs qui sont noirs et ils se font insulter, mais comme c'est pas possible, je ne comprends pas, je ne comprends pas, et je ne comprends pas qu'un joueur comme Zinedine Zidane donne un coup de boule dans un match et que tout le monde dise bah oui, mais c'est quand même, c'est Zidane, il a le droit de taper. Bon, après, on voit effectivement les gamins reproduire ces violences-là, clairement. Deuxièmement, ça se passe en Russie, alors. Je suis peut-être russophobe, je ne sais pas, mais en tous les cas, poutinophobe, ça c'est clair. Même si c'est un judoka, j'avoue que je ne peux pas dire du bien de sa politique et de ce qui se passe en Russie et du rôle de la Russie dans le monde. Troisièmement, j'ai déjà oublié, parce que ah oui, après il y a toute la question de l'argent, c'est-à-dire que les salaires des joueurs de football sont tout à fait indécents. On s'émeut en ce moment en France des diminutions des minima sociaux sur d'aide au logement et ainsi de suite. Et effectivement, quand on hurle à 5 euros, tout le monde dit oh, oui, mais c'est rien 5 euros, puisqu'effectivement, on a en tête des gens qui gagnent je ne sais trop combien de fois 5 euros. Bon, 5 euros dans ce budget d'un client aux minima sociaux, c'est une à deux journées d'alimentation. Hein. Donc, il faut aussi ramener les choses. C'est-à-dire, ça creuse les inégalités sociales et ça les encourage dans la tête des personnes qui vont se dire « Ah bah oui, si un jour je suis joueur de foot, je gagnerai de l'argent. » Et à côté de ça, il y a la pub, il y a l'espèce de chape culturelle. Dimanche soir, j'étais avec un ami, on a cherché une terrasse sans télévision à Paris, on ne l'a pas trouvée, on a acheté une canette dans une épicerie, on était la boire dans un square, parce qu'il n'y a pas une terrasse à Paris où il n'y a pas un écran avec du foot dessus, parce que plus quand il n'y a pas de match, ils rediffusent les autres, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais je suis pas, c'est pas mon sujet de prédilection le football, mais là, c'est insupportable. Et je pense que j'aurai la même réaction quand les Jeux Olympiques se tiendront à Paris, parce que tout cette façon de c'est pas du sport, on est dans du spectacle mondial et mondialisé, et on a effectivement une frange de la société qui nous dit il faut faire cesser la mondialisation, soyons altermondialistes, développons le développement durable, le respect des autres et ainsi de suite, et qui vont regarder un match de foot de la Coupe du Monde. Et bien ça, je ne le comprends pas. Et ce que je comprends par contre, c'est que sur mon site, sur ma page Facebook, j'ai 4 personnes qui se sont abonnées à mon événement, donc ce qui prouve l'engouement pour ce boycott. Donc je fais un bide total, mais c'est pas grave, ça, je l'ai fait. Dans la même veine de ce que je vous disais tout à l'heure.
Mais comment est-ce que vous expliquez justement que les gens s'en détournent ? Parce que la question que j'avais par rapport à ça, c'est également si on se projette sur la prochaine Coupe du Monde, Qatar 2022, où là, on sait d'ores et déjà que plus de 1200 personnes sont décédés sur les chantiers. On le sait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de déni possible ou de dissimulation. Ça, c'est quelque chose que l'on peut dire d'être de notoriété publique. Comment expliquer une telle neutralisation du sens commun, du sens critique, de l'indignation, puisque, comment dire, comment est-ce qu'on peut adhérer à un événement dont on sait d'ores et déjà que plus de 1000 personnes, avec les familles, avec les amis de ces personnes-là, sont décédées ?
Mais parce que l'économie mondiale fonctionne à ça, c'est-à-dire que la Coupe du Monde de football, c'est un événement économique avant tout, c'est l'apogée du libéralisme. Donc il y a un phénomène d'une cumulation d'acteurs, un cumul d'acteurs qui vont dire que le football, c'est essentiel. Et on va vous sortir des images d'un enfant, on ne les a pas encore vues, mais ça devrait bien arriver. On va voir forcément trois enfants jouer au foot sur une ruine à Alep. C'est obligatoire. Mmh. Et quand on voit ces trois enfants qui jouent au foot sur une ruine à Alep, c'est beau le football, c'est pour les enfants. Tout ça, c'est pour... parce que faut être clair, tout ça, on le fait pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Hein, si je regarde le foot et que je commande une pizza, c'est pas pour moi. Moi, vous savez, le foot, je pourrais m'en passer. Mais les enfants. Donc, on est tout système politique fonctionne sur une oppression, un système culturel qui est pas forcément de nature oppressive, mais qui de fait l'est. Et tout est construit autour de ça. En plus, ça intéresse tous les gouvernements du monde, que les personnes s'intéressent plus au football. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous parlez des morts au Qatar, mais combien de personnes meurent tous les jours en Méditerranée en ce moment?
Bien sûr.
Je n'ai pas vu d'indignation populaire. Absolument. En plus, on se rend compte aux États-Unis, là, il y a un fait qui est très intéressant à observer, cette affaire d'enfants qui sont séparés de leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas être incarcérés en droit américain. Oui. Donc, on voit les images, et on se rend compte aujourd'hui que la moitié des images qu'on nous bassine sont des images qui n'appartiennent pas à ce drame-là, mais à d'autres drames, ou pas. Et donc, même dans ce monde où on a un drame identifié, où on peut faire les bonnes photos à cet endroit-là, on est quand même dans un bluff et dans un leurre et dans un mensonge, puisque des photographes vont nous sortir des images qui n'ont rien à voir avec ça, en nous faisant croire qu'elles ont un lien avec ça. De là à considérer que ces fausses images sont là pour discréditer les vraies, il n'y a qu'un pas que je serais prête à franchir. Je ne suis pas une adepte de la théorie du complot. Je ne crois pas qu'il y ait un complot. Je crois qu'il y a des riches et qu'il y a des pauvres et que la vocation première d'un riche, c'est d'être toujours plus riche et qu'il ne peut être toujours plus riche que s'il y a de plus en plus de pauvres. C'est simple, ça peut paraître primaire, mais je pense qu'on est dans ce système-là et que le football, à l'instar de beaucoup de compétitions internationales et de beaucoup de choses qui se passent au niveau international, hein, que ce soit les histoires de stars, voici se vend beaucoup mieux que Mediapart. Voilà, c'est ça, le fond du sujet il est là, et que c'est vrai que c'est plus facile de lire Foissy, de lire Mediapart, et que tout le monde y gagne. Et ce que j'explique dans mes fragments d'un discours politique, c'est que c'est un continuum, c'est-à-dire que chacun, au niveau où il est, il a quelque chose, il a obtenu quelque chose du système social, et son objectif, ça va être de monter d'un cran, et que pour monter d'un cran, il doit opprimer celui qui est au cran juste en dessous de lui. Et c'est comme ça que vous avez des personnes qui sont, on va dire, en bas de l'échelle sociale, qui vont être des harceleurs, des opprimeurs et ainsi de suite, parce qu'ils sont dans un système culturel où on leur a expliqué qu'il fallait qu'ils montent toujours d'un cran, et que pour monter d'un cran, il fallait piétiner le mec qui était en dessous. Et que cette espèce d'escalier permanent fait que les oppresseurs ne sont pas ceux qui sont le plus en haut de l'échelle. Je crois que c'est Pinault qui a déclaré aujourd'hui que Macron n'était pas gentil avec les pauvres, ce qui vient franchement de l'ordre du gag.
Ouais, c'est clair.
Parce que lui,
c'est
il n'a pas besoin d'être méchant avec les pauvres, il n'a plus besoin d'être méchant, il est méchant avec les riches, les moins riches que lui.
Au contraire, lui, il peut même apparaître... Il peut même apparaître en faisant un don ou un truc un petit peu de com, comme un bienfaiteur.
C'est ce système-là qui fait que toute personne, là où elle est, a vocation à chercher à monter d'un cran et à chercher à piétiner. Et pour monter d'un cran, de toute façon, il faut qu'il enlève quelque chose à celui qui est en dessous. On ne peut pas monter sans enlever quelque chose. Et ce quelque chose qu'on enlève de cran en cran, ben, y a des gens qui le récupèrent. Donc, ce n'est pas un complot, c'est un système. C'est le système qui fonctionne comme ça. Donc, sauf à mettre un coup de pied dans le système, je ne vois pas tellement comment on pourrait changer les choses.
Que dites-vous alors du coup il y a un aphorisme qui est apparu sur une grande banderole dans un stade à Tunis, je crois que c'était lors d'un derby entre l'Espérance et puis le club africain, créé par les pauvres, volé par les riches, concernant le football. Il y a un peu de ça, selon vous ?
Je ne connais pas l'histoire du football, j'avoue que je ne m'y suis pas penchée. Est-ce que la légende qui dit que c'est des enfants qui jouaient au football dans les bidonvilles de Buenos Aires, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si ça fait partie du légende ou pas. Je ne sais pas d'où vient le football.
D'accord. Nous faisons en ce moment ici à Libre Radio également une critique de cette Coupe du Monde. Alors, un des ouvrages sur lesquels on s'est... pas mal et on continue de se baser, peut-être le connaissez-vous, en tout cas je le soumets à votre jugement, c'est Le Foot, une peste émotionnelle par Jean-Marie Brome et Marc Perelman, qui sont des sociologues. Et là-dedans, ben nous, on s'était dit, tiens, parlons de la stadification du monde ou de la mondialisation du stade. Et pour en illustrer le propos, on met en exergue une anecdote que je vais vous énoncer maintenant. Alors, ça date de 1978, hein, c'est en Argentine, au moment où le général Videla fait un putsch, enfin 2 ans après le putsch. C'est donc une dictature extrêmement violente, la torture y a cours. Et pendant cette dictature-là, qui ira de 76 à 83, eh bien, voici une des anecdotes où... Donc la Coupe du Monde a lieu en Argentine, les équipes ne le boycottent pas, ils vont dans ces stades, eh bien, il y a les matchs de foot et dans les postes de police accolés, eh bien, il y a des actes de torture. Alors dans le cadre de l'opération Condor, qui était en fait une coordination des différentes dictatures d'Amérique latine pour traquer et éliminer leurs opposants, l'Argentine et le Pérou conviennent d'un accord concernant le match. Les opposants au second tour du mondial, l'Argentine devait l'emporter avec une différence d'au moins 4 buts pour se qualifier. Eh bien, elle se charge de faire exécuter par sa police politique 13 opposants péruviens à la dictature de Francisco Morales Bermudez au Pérou en échange de l'assurance d'une large victoire lors de la rencontre sportive. Il se trouve que l'Argentine s'imposera avec un glorieux 6-0, alors que les 13 opposants seront tués au cours d'un vol de la mort. Donc les vols de la mort, on mettait ces personnes-là dans des avions, on les endormissait à moitié, et puis on les larguait dans l'océan Pacifique. Dans l'océan Atlantique, pardon. Voilà, ça c'est une anecdote qui nous paraît hallucinante dans le cadre justement du foot comme opération de propagande et comme neutralisation de la conscience populaire d'une certaine manière. Et il se trouve que on assiste de nouveau à ça en ce moment, hein, quand on dit panem et circense, du pain et des jeux, donc il y a l'expression de Juvenal hein, qui date hein, puisqu'elle a été commise environ en 100 de notre ère, hein, eh bien, dans son assertion contemporaine, nous, on y voit deux choses. Et là aussi, je les soumets à votre acuité. On y voit le peuple qui consent à s'y réduire, replet et satisfait, les jeux et la brioche, d'une certaine manière, et puis celui des dirigeants et des potentats, c'est asservir et neutraliser une population. Est-ce que, selon vous, on en est encore à ça? Est-ce que, selon vous, on n'a pas bougé depuis l'année 90-100 de notre ère?
Mais disons que je crains qu'aujourd'hui, les systèmes de communication soient tels qu'on n'a plus besoin de jeter les opposants depuis des avions pour démontrer que le foot est coercitif. Il suffit de voir, par exemple, les marchés financiers qui sont autour de la diffusion d'un match de foot pour comprendre que la simple existence de ce match et de cette compétition suffit à ce que le peuple se taise. Et face à mon boycott, j'entends des gens qui me disent « Ouais, t'as raison, ça ne nous intéresse pas, mais quand même, si la France gagnait… » Bon, Macron a quand même dit, je crois qu'il irait en Russie si l'équipe de France était en je ne sais plus combien de finales. Notre président de la République n'hésite pas à fréquenter un dictateur pour valider une compétition sportive qui n'en est pas une. Donc, on a vraiment plus besoin. Alors, on est dans ce système-là. Il n'y a pas une publicité en ce moment qui ne présente pas un ballon rond. On est dans l'idée que la croissance et la société, le développement économique nous permettent des loisirs et que ces loisirs aujourd'hui, on pourrait aller au théâtre, on pourrait aller au cinéma. Non, on va, et puis quand on va au cinéma, on pourrait fréquenter les salles d'art et d'essai. On pourrait écouter votre radio, mais non, on écoute les RMC, France Info, et on est tous embarqués là-dedans avec l'idée que, comme on a un petit instinct grégaire non dissimulé, bah, si tout le monde regarde le foot, on aurait l'air d'un con à pas le faire. Voilà, ouais. C'est un peu ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, il suffit, cette simple idée-là, que celui qui ne fait pas comme les autres est un con, suffit à faire que tout le monde fait la même chose.
Mmh. Oui, c'est terrible. Ce constat est terrible.
Le constat est terrible. Après, je ne suis pas non plus pessimiste. Je viens de lire le livre de Popovic, l'activiste serbe. C'est vrai qu'on se dit, quand on lit son livre, que la résistance non violente et le changement sont plus faciles, selon ses règles, dans une dictature que dans une démocratie. Donc plus la démocratie deviendra autoritaire, plus il sera facile de la changer. C'est un peu la conclusion que j'en ai tirée. Hein. Je fais un raccourci, bien sûr. Ouais. On ne me prête pas des propos que je ne tiens pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit sur le statut des cheminots ou de service public des chemins de fer, que ce soit sur le fait de consentir à ce divertissement national, ou le fait de, par rapport à toutes les sables budgétaires dans les services publics. Non, ce qui intéresse les Français, c'est de regarder le prochain match de l'équipe de France. Bon, ben moi, je ferai autre chose, mais dont acte.
Mmh, ouais, d'accord.
Bon, on va pas s'arrêter pour autant, hein.
Certainement.
On va pas s'arrêter là. Moi, j'ai pas l'intention d'arrêter de faire des communiqués sur des sujets divers et variés et de faire ce que je crois juste.
Tout à fait.
C'est ça la solution. La solution est que chacun là où il est. C'est que vous continuiez à émettre et que moi, je continue à publier. Voilà, elle est là, la solution.
Mmh. Alors justement, vous citez par ailleurs un article qui est paru dans la revue Quel Sport, qui propose donc, selon vous, une critique radicale du sport et du corps sportif, ceci étant considéré comme les idéologies totalitaires et des poisons somatopsychiques antirévolutionnaires. C'est le numéro 3334 de Total Football, une arme de diversion massive, c'est ça? C'est le numéro 3334 de la revue Quel Sport.
De la revue Quel Sport. Vous trouverez les liens sur mon communiqué sur mon site. J'ai mis le lien en bas de la page que vous trouverez donc facilement.
Ouais. Et là, donc, le titre Total Football, une arme de diversion massive, je trouve que c'est bien trouvé.
Mais je ne connaissais pas cette revue. Ça fait partie des choses positives de mon communiqué. Je vous rencontre, vous, on bavarde à la radio, et le garçon qui gère plus ou moins visiblement cette revue, qui s'appelle Fabien Ollier, m'a contacté en disant « Ah, vous faites un boycott, j'en fais un aussi ». Donc, j'ai découvert sa revue. Il m'a très gentiment offert ce numéro-là. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais vu le reste de son propos, je suis sûre que c'est passionnant. Donc, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si mon boycott m'a permis juste de faire le lien avec vous et avec lui, ben, j'ai gagné mon boycott, c'est clair. C'est parce que j'ai appris des choses, parce que je vous rencontre, parce que je peux m'exprimer… à la radio, voilà, donc c'est aussi la politique des petits pas, des gouttes d'eau, la tactique colibri, ça marche, je crois que ça marche. En tous les cas, ça permet de construire sa vie et le jour où on va mourir, de se dire, j'aurais tenté quelque chose.
Absolument.
Moi, ça m'embêterait beaucoup de ne rien tenter, en fait. Je m'ennuierais, je ne serais pas d'accord.
Bon, en tout cas, là, ce n'est pas le cas. On est plus dans l'action, il me semble, que dans l'attente. Ouais. Merci beaucoup. Si on arrive, il est 15 heures passées de 3 minutes. On s'arrête là?
Pour cette fois-ci. Je vais vous dire pour quelles sont mes obligations, ça va vous épater. J'ai promis à une de mes voisines un peu âgée qui a des problèmes de vertige d'aller lui faire profiter un peu du soleil, et je crois que c'est aussi des choses importantes à faire pour dire que le monde, ce n'est pas que des gens qui courent partout et qui s'écrasent les uns les autres. Voilà.
C'est fondamental,
donc,
c'est clair.
J'ai rendez-vous avec elle. Ouais, je suis désolée.
Non, il ne faut pas être désolé, et puis quoi qu'il en soit. On aura d'autres occasions de parler de ça. On va peut-être juste rappeler encore les sites internet. Donc le vôtre directement, c'est www.siyung.com, C-Y-J-U-N-G. Donc on mettra tous ces liens-là, bien entendu, sur le site de l'article. Et puis l'appel au boycott de la Coupe du Monde de football, ça c'est sur le site, on le trouve. Et puis il y a la page Facebook, on appelle tout nos auditrices et nos auditeurs à s'y intéresser, à s'y rendre et à y participer également, et de manière locale et décentralisée, organiser justement des petits bals ou des petites choses qui feraient, ou alors justement des visites aux voisins, aux voisines, pour en tout cas se détourner de cette espèce de peste émotionnelle et pour recouvrer une existence réelle et libre à l'aune de cette Coupe du Monde.
Et puis, avec plaisir, oui.
Et puis nous, on va se retrouver une prochaine fois pour continuer peut-être cette discussion-là un peu plus tard dans cette Coupe du Monde, voire, je ne sais pas, quelques communiqués prochains que vous produiriez. Et puis, on va essayer, nous, de recenser quelques initiatives, justement, de personnes qui boycotteraient. Nous, on le fait déjà avec notre petite bibliothèque mobile. Hein, on en fait la critique et puis, effectivement, on invite les personnes à jouer à autre chose. Mais voilà, ce serait intéressant de voir dans... peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, où on en est et puis qu'est-ce qui s'est passé autour de cette Coupe du Monde, justement pour la dépasser.
Bah écoutez, moi demain je vais créer, parce que comme les événements Facebook durent 15 jours, je ne peux pas faire un événement sur, sur toute la période, donc je vais créer un autre événement demain. Moi je vais continuer, je ne suis pas sûre que, sauf si vous êtes écouté par des millions d'auditeurs, que je fasse plus de scores que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais en tous les cas, moi je suis ravie de vous avoir rencontré, de bavarder avec vous. Et je suis à votre disposition pour plein de bavardages, j'adore ça.
Ah, génial.
N'hésitez pas à me solliciter sur les sujets que vous, j'ai remarqué que vous aviez bien épluché mon site. Et donc, n'hésitez pas à me solliciter, je serai toujours ravie de vous répondre.
Ah, bah, c'est très gentil en tout cas. Je vous remercie beaucoup.
Eh bien, écoutez, merci à toutes. Vous aviez quelqu'un près de vous qui voulait poser
une
question?
Oui, alors, justement, mais je crois que vous avez répondu avant qu'elle ne pose la question.
On a nos
fidèles membres de l'équipe et alliés qui sont parmi nous et qui écoutent attentivement au casque. Mais je crois qu'on a été relativement exhaustif quand même. Donc, pour le moment, en tout cas, pas de questions. Mais certainement que des questions surgiraient un peu plus tard. Vous savez comment c'est, l'esprit de l'escalier, tout ça, tout ça.
Oui. Et bien, écoutez, merci à vous tous et puis bonne fin d'émission.
Merci. Et puis.
Et moi, je vais aller profiter du soleil parisien.
Absolument. Et puis à une prochaine. Alors, merci encore.
Merci, au revoir.
Voilà, alors de notre côté, eh bien, petite pause musicale et puis on revient avec la suite des opérations. A priori, il y a un ordre des choses qui m'échappe là sur le moment, mais on y reviendra après une petite chanson. C'est parti.